Alors, ce qui est intéressant à faire comprendre, c'est la dette elle-même. Comment cette dette s'est installée? Parce qu'on est en train de vous écouter, mais on dit, si ces pays ont des dettes, ont contracté des dettes, que ce soit auprès des pays bailleurs de fonds que vous venez de citer, ou de la Banque mondiale et du FMI, après tout, ils doivent rembourser cet argent. Il faut quand même bien rembourser l'argent qu'on doit. Alors, expliquez-nous comment l'histoire de la dette, si c'est possible, en quelques mots.
Bon, alors on va essayer d'aller fort vite. Je dirais l'histoire de la dette. Aujourd'hui, elle se monte à 1 600 milliards de dollars. La dette extérieure publique des pays en développement où vivent 87% de la population mondiale. D'où vient-elle? Grosso modo, il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand naît la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'était en 1944 à Bretton Woods. Ces institutions visaient à relancer l'économie des pays qui avaient été dévastés par la guerre en octroyant des prêts de reconstruction. La Banque mondiale a prêté de l'argent à la France, par exemple, en 1947, pour la reconstruction de la France, 250 millions de dollars. Pour participer, en fait, de la reconstruction, la Banque mondiale a prêté également aux colonies de ces grandes puissances européennes. Donc la Banque mondiale, à la demande de la France, a prêté de l'argent au Gabon, à l'Afrique occidentale française qui plus tard deviendra le Sénégal, le Mali, etc. La Banque mondiale a prêté au Congo belge, Congo Kinshasa d'aujourd'hui. La Banque mondiale a prêté à l'Ouganda, le Nigeria, etc. Et en fait, la Banque mondiale a endetté les colonies africaines des pays européens. Et figurez-vous qu'à l'indépendance de ces pays, à partir de 59, 1960, les États indépendants ont dû assumer les dettes qui avaient été contractées par les métropoles coloniales en leur nom. La France avait contracté un emprunt pour le Gabon, pour mieux exploiter le pétrole du Gabon, avait emprunté de l'argent pour le Congo, pour mieux exploiter ses ressources forestières et construire une voie de communication pour amener le bois de construction vers un port maritime. La Belgique avait emprunté de l'argent pour construire une voie de communication de la côte congolaise vers l'intérieur de manière à sortir du Congo l'uranium, les minerais précieux, etc., qui dopaient l'économie belge. À l'époque, l'Angleterre avait emprunté de l'argent pour que le Kenya augmente sa production de thé. Donc en fait, on a endetté les pays africains qui étaient des colonies entre 1945 et disons le début des années 60 au profit des métropoles. Et quand ces pays se retrouvaient indépendants, ils avaient déjà au pied un nouveau boulet qui était le boulet de l'endettement extérieur. Après ça, la Banque mondiale et les banquiers privés internationaux, là c'est surtout les années 60 et 70, ont augmenté les volumes de prêts avec des projets qui étaient chaque fois d'énormes projets, de grands barrages. On a construit, il faut savoir qu'aujourd'hui sur la planète il y a 45 000 grands barrages. C'est des barrages qui ont plus de 15 mètres de hauteur de retenue d'eau. On a vendu, je dirais, clé sur porte, des centaines de barrages aux pays du tiers-monde en leur prêtant de l'argent, et l'entièreté de l'argent quasiment l'entièreté de l'argent qui était fourni aux pays qui allaient construire un barrage, pour prendre cet exemple-là, repartait directement au nord pour acheter du matériel de construction, du béton, des techniciens, etc., fournis par les entreprises de BTP des pays du Nord. Troisième étape, amplifiée au cours des années 70, quand l'économie des pays les plus riches est entrée dans une récession internationale, c'était à partir de 73-75, et les pays du Nord ont augmenté les prêts aux pays du Sud pour essayer de limiter l'augmentation du chômage dans les pays du Nord. Donc, de nouveau avec l'idée, on prête de l'argent au Sud, le Sud avec cet argent nous achète des marchandises, ce qui maintient un certain taux d'emploi au Nord. Donc ce qu'on prête revient immédiatement dans dans nos économies. Dans tout ce processus, pour convaincre les pays de s'endetter, les banquiers privés, les gouvernements du Nord, la Banque mondiale, favorisaient des élites locales, des gouvernements en place, qui, dans certains cas, pouvaient être réticents à s'endetter. Et pour les amener à s'endetter, on leur disait...
Ça, c'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait la complicité des élites locales, des pouvoirs locaux à chaque fois.
Absolument. Et donc, il y a des gouvernants du Sud qui, allègrement, ont endetté leur pays en se disant qu'ils pouvaient prélever sur les sommes qui étaient prêtées à leur pays leur commission. Et Mobutu, au pouvoir, après avoir... fait assassiner Patrice Lumumba en 61. Donc Mobutu, qui a dirigé le Zaïre, enfin, le Congo devenu Zaïre, jusque 1997, Mobutu prélevait une commission d'environ 10% sur tous les prêts qui étaient faits à son pays. Donc
de même Suharto pour l'Indonésie.
Voilà, Suharto pour l'Indonésie, mis en place par les Américains à partir de 1965, en même temps que Mobutu d'ailleurs, a allègrement endetté son pays. Donc là, il y avait une complicité évidente de régimes, beaucoup de régimes dictatoriaux. Suharto est venu en place en Indonésie en faisant assassiner 500 000 civils indonésiens en les accusant d'avoir... participer à la préparation d'un coup du Parti communiste qui, soi-disant, voulait prendre le pouvoir. On a massacré 500 000 civils et mis hors du pouvoir le président nationaliste Sukarno en 65. Pour venir maintenant dans les pays qui sont au centre du drame du tsunami, Sukarno, c'est un gars qui avait dirigé la lutte d'indépendance de son pays. L'Indonésie est une colonie hollandaise. Il s'était mis à dos... les puissances occidentales en nationalisant des entreprises hollandaises, en annonçant qu'il allait nationaliser des entreprises pétrolières et en retirant son pays de la Banque mondiale. En 62, Sukarno dit « on en a marre des diktats de la Banque mondiale, on quitte cette banque ». Il est renversé par le général Suharto, appuyé par les États-Unis, et le lendemain du coup, des massacres, l'Indonésie adhère à nouveau à la Banque mondiale qui prête massivement de l'argent à partir de la fin des années 60 quand la Banque mondiale sera dirigée par Robert McNamara qui avait été, avant de devenir président de la Banque mondiale, secrétaire d'État à la défense des États-Unis, c'est-à-dire il était le Donald Rumsfeld de la guerre du Vietnam, McNamara. Il devient président de la Banque mondiale.